On retrouve notre invité du jour, Sébastien Dieguez. Vous êtes avec nous depuis 7h40. On parle ensemble de bullshit, de post-vérité. Et pour cause, vous avez publié Total Bullshit au cœur de la post-vérité. C'est paru chez PUF. Avant de se quitter, avant le journal de 8h, on évoquait ensemble cette question de la responsabilité des scientifiques, de leur difficulté aussi à imposer la vérité face au bullshit. Je voudrais qu'on revienne un peu sur ce point-là et qu'on s'appuie peut-être sur un fait précis. Il y a eu beaucoup de commentaires, on parlait également de Twitter, il y a eu beaucoup de commentaires concernant l'impact des fausses nouvelles sur les élections américaines, certains n'hésitant pas à affirmer que elle avait permis de faire élire Donald Trump à la Maison Blanche. Essayons de voir justement ce que disent les scientifiques sur ce point, parce qu'en la matière, il y a des études relatives à la portée des fake news, notamment celles de chercheurs de l'université Dartmouth qui se sont basées sur les données de navigation de près de 2500 citoyens américains pendant le mois qui a précédé l'élection, et elle montre plusieurs choses. D'abord que la plupart des fake news publiées et consultées étaient des fake news pro-Trump, et en même temps, les chercheurs relativisent leur impact sur le scrutin. Je cite par exemple Brendan Nihan, il dit « En ce qui concerne le battage médiatique autour des fake news, il est important de reconnaître qu'elles n'ont atteint qu'un sous-ensemble de la population américaine, à savoir les partisans politiques les plus intenses. » En gros, ce que nous dit là la science, c'est qu'elle ne sait pas répondre sur l'impact des fake news sur l'élection américaine. Est-ce qu'on touche pas là aux limites de la science qui ne peut pas tout dire, qui ne peut pas répondre à toutes les questions? Ce qui, évidemment, nourrit en retour le bullshit et ce régime de post-vérité dans lequel on aurait basculé.
Ah bah c'est certain, hein. Il faut pas non plus attendre des solutions toutes cuites et toutes faites. Ce serait du bullshit en réalité. J'explique aussi vers la fin du livre que l'appel permanent à trouver des solutions et des explications est en réalité une forme de bullshit, parce que ce qui compte le plus, c'est de saisir le développement de ce qui se passe, et plutôt que d'avoir une solution, d'envisager la méthode qui conduirait à aboutir à cette solution. Ce serait beaucoup plus important. Maintenant, les études, c'est très intéressant. Il y en a vraiment beaucoup qui commencent à se faire et à sortir ces temps-ci. On a aussi des rapports officiels, gouvernementaux. On a des symposiums sur les fake news. On a même un symposium sur le bullshit en tant que tel. Moi, je vous le dis honnêtement, je commence à avoir un peu de la peine à suivre tout ça. Voilà, les données sont parfois contradictoires. Donc c'est difficile c'est pas encore le moment de prendre du recul, mais c'est vrai que on a sans doute exagéré l'influence des fake news, des manipulations du bullshit et du mensonge sur l'issue du Brexit, de l'élection de Trump et de d'autres scrutins.
Sébastien Dieguez, vous dites que face à l'avènement de l'ère de la post-vérité qui menace nos démocraties, toutes les initiatives sont allouées, de l'éducation aux médias aux rubriques de vérification dans les journaux, à condition d'en examiner avec rigueur et méthode les effets. Je voudrais qu'on s'attarde sur ce projet de loi, parce qu'Emmanuel Macron a annoncé son intention de mettre sur pied une loi contre les fake news, ou pour la fiabilité et la confiance de l'information. D'ailleurs, il l'a répété la semaine dernière lors de sa visite à Washington. Il l'a dit combien il était crucial de lutter contre les fake news pour protéger nos démocraties. Alors, si l'intention évidemment est louable, beaucoup sont inquiétés des dérives possibles de cette loi qui pourrait devenir évidemment liberticide. D'abord, d'un point de vue théorique, que pensez-vous de cette idée de mettre en place un nouveau dispositif législatif pour contrer la montée en puissance du bullshit et se protéger dans cette ère de la post-vérité? Est-ce que c'est un outil qui peut être efficace, ou est-ce qu'au contraire il faut s'en méfier parce que précisément il pourrait être liberticide?
Il faudrait vraiment en savoir plus sur en quoi ça va consister. Je crois, enfin, pour ce qui concerne le bullshit, encore une fois, j'avais dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de loi contre le bullshit. Je ne crois pas opportun d'empêcher les gens de parler de ce qu'ils ne connaissent pas ou de dire des bêtises. Évidemment, c'est pas interdit. Maintenant, peut-être qu'on peut mettre en place certains outils de signalisation. Bref, il y a beaucoup de choses à envisager et à faire. Moi, je suis chercheur, donc tout ça m'intéresse sur le temps long. Je dis que toutes les initiatives sont bonnes à prendre, parce que dans le fond, le pire qui puisse arriver, le pire qui puisse arriver, c'est évidemment des lois liberticides ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Mais à mon sens, le pire qui puisse arriver, c'est qu'on ait une sorte d'effet boomerang où en cherchant à protéger les gens, on les encourage encore plus à s'informer de manière aléatoire.
On ne sait pas grand-chose, mais on sait quand même des choses. On sait par exemple qu'il y aurait un dispositif particulier durant les périodes électorales. On parlait des élections américaines et du Brexit, pendant lesquelles, donc, en cas de propagation d'une fausse nouvelle, il serait possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé. Dans certains cas, un juge pourrait, sous 48 heures, je cite, faire cesser la diffusion de fausses informations, notamment en ordonnant le déréférencement d'un site ou le retrait des contenus, voire même la fermeture d'un compte sur un réseau social. Donc finalement, ce serait au juge de se faire l'arbitre entre le vrai et le faux. Ce qui d'abord peut s'avérer compliqué, parce qu'en réalité, déterminer le vrai du faux, il y a certains cas où c'est compliqué, mais est-ce que c'est au juge de déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux ?
C'est au juge de juger, c'est ce qu'ils font de manière générale. Et c'est à peu près la même question que pour tout ce qui concerne la calomnie ou la diffamation. Des fois, la frontière est très fine entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est aussi la même chose pour le plagiat, des choses comme ça. Donc, un juge peut donner sa vérité juridique. C'est pas la même chose que la vérité scientifique.
C'est ce que j'allais vous dire.
Il faut toujours garder ça en tête.
D'autant qu'on a un vrai problème, parce que quand on parle de fake news, on parle de quoi Est-ce que parce que on voit aussi qu'il y a des politiques qui utilisent cette formule pour évoquer en réalité une couverture médiatique qui leur est défavorable. Donc on voit bien déjà que ce terme fake news pose problème.
Oui, mais c'est de la nature du bullshit d'être mimétique, de prendre les apparences de la vérité, de prendre les apparences du sérieux, de la solennité. Et de l'outrage. Donc c'est sûr, hein, à partir du moment où vous avez ce concept de fake news, vous avez des gens pour dire que tout ce qui leur convient pas, c'est du fake news. Moi, j'essaie d'éviter dans mon livre de dénoncer les choses qui ne me plaisent pas. Il y a tout un tas de choses qui ne me plaisent pas, mais c'est pas spécialement la question qui intéresse qui intéresserait les lecteurs. Je pense qu'il faut aboutir à une certaine conception théorique et plutôt abstraite de ces phénomènes-là pour essayer d'avancer plutôt que de dénoncer tout ce qui nous convient pas. Alors avec Trump en particulier, mais tout un tas d'autres individus comme Erdogan ou Vladimir Poutine qui dénoncent les fake news occidentales ou les fake news qui ne les arrangent pas. C'est une guerre d'information, de la désinformation, du bullshit contre la connaissance et la vérité. Il faut attendre peut-être de voir que si ça se décante un peu, ce qui se passe, et avec un peu plus de recul, à mon avis, essayer de voir comment évoluent les choses. Hein. Je postule aussi que ça peut pas évoluer très loin comme phénomène, parce que si tout devient du bullshit, vous pouvez plus bullshiter. C'est comme la fausse monnaie. Il faut qu'il reste encore un peu de vraie monnaie si vous voulez faire circuler de la vraie monnaie.
Vous parlez de guerre. Qu'est-ce qui peut permettre de remporter cette guerre ? On voit qu'il y a des initiatives nationales, on vient d'en parler, il y a des initiatives aussi au niveau de l'Europe. Récemment, la Commission a présenté des propositions pour essayer de lutter contre la désinformation en ligne, incitant les Facebook et autres Twitter à faire plus pour dans cette chasse aux fausses nouvelles, sans toutefois d'ailleurs préconiser une réglementation. On propose simplement un code de bonne conduite. On sent bien que là, il y a une méthode douce qui montre peut-être aussi cette difficulté à imposer des règles à ces acteurs qui sont extrêmement puissants. Mais est-ce que la bataille, au fond, elle n'est pas dans le statut même des réseaux sociaux, de Facebook, de Twitter ? Parce que au fond, la question est de savoir aussi si ces acteurs sont ou pas des médias. Parce que s'ils le sont, ils doivent évidemment se soumettre aux règles relatives à la production et la diffusion d'informations. Est-ce que le grand chantier, la grande bataille, c'est pas celui précisément du statut de ces réseaux sociaux ?
Mais c'est toute la question, ouais. Puis ça dépasse largement mes compétences. Après tout, je suis un modeste psychologue et neuroscientifique. Mais bon, on sait plus ce qu'est un taxi aujourd'hui, donc on sait plus non plus ce qu'est un journal, donc il faudra voir évidemment comment ça évolue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas ces grandes infrastructures et ces vastes questions hein, sur la nature de l'information et de la presse, mais la psychologie humaine. Au bout du compte, vous avez des gens qui partagent, et qui likent, et qui produisent toutes sortes d'informations. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la mise à disposition d'une technique pour un cerveau humain archaïque, en quelque sorte. C'est ça toute la question.
Justement, regardons peut-être un peu les choses et restons sur la question de Facebook. En 2016, Facebook avait lancé une initiative, une nouvelle initiative pour lutter contre l'épidémie de fausses nouvelles en sollicitant l'aide de plusieurs médias américains vérificateurs de faits. Et en France, il y a eu à peu près la même chose qui a été annoncée quelques mois plus tard. Il y a un partenariat à peu près semblable qui a été annoncé en collaboration avec Le Monde. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots hein, ces collaborations? Est-ce qu'on peut peut-être en faire un bilan? Et puis, on va regarder ce qu'on peut attendre ou non de cette question du fact-checking, c'est-à-dire de cette vérification des faits. Est-ce que c'est un bon outil de lutte contre le bullshit et la post-vérité? Sébastien Dieguez.
Voilà, si je me rappelle bien, la tentative de Facebook, ça avait été de mettre des étiquettes, dans le fond. Ils disaient ça c'est fiable, ça c'est moins fiable, ça c'est moyennement fiable, ce genre de choses. À ma connaissance, ils ont renoncé à ça. Visiblement, ça marchait pas très bien. Et en fait, on a des études qui montrent que, qu'elles soient fiables ou pas fiables, les gens partagent les infos qu'ils trouvent intéressantes, spectaculaires ou qui vont dans leur sens. Je pense que c'est ça le cœur du problème, c'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. Dès que vous avez quelque chose qui vous donne raison, c'est ça que vous allez retenir, c'est ça que vous allez tenter de propager. Donc ces tentatives-là, elles me paraissent intéressantes parce que bon, dans le fond, c'est sûr qu'il faut bien faire quelque chose. Il faut bien, au bout du compte, que quelqu'un vérifie les informations. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Il y a encore cet effet boomerang qui fait que si vous avez quelqu'un qui vérifie une information puis qui vous dit qu'elle est fausse, vous pouvez vous braquer si vous étiez en accord avec cette information. C'est ce qu'on voit aussi
Mais qu'est-ce qui se passe justement quand on nous dit qu'une information est fausse? Parce que dans cette collaboration entre Facebook et ses vérificateurs américains, il y avait effectivement la mise en place d'une sorte on catégorisait d'une certaine manière les informations. Il y avait les vraies, les fausses, les mélanges et les non éligibles. Qu'est-ce qui se passe très concrètement quand on vous dit que vous allez partager par exemple une fausse information? Est-ce que ça remet en cause justement votre désir de la partager par exemple?
À ma connaissance, non. C'est assez étonnant, mais c'est comme les théories du complot. Si une théorie du complot est labellisée en tant que théorie du complot, ça ne réduit pas la propension à la partager. Au contraire, même, ça l'augmenterait. Il y a une étude intéressante sur la vaccination qui est un problème actuel. Si on dit aux parents anti-vaccins qu'ils ont tort et qu'on leur explique bien pourquoi c'est important, etc. En fait, ils ont tendance à se braquer sur leur position. Ils peuvent reconnaître qu'ils ont tort, mais ça va pas les faire changer d'avis. Et c'est aussi ce qu'on voit avec les électeurs de Trump, qui reconnaissent que Trump ment souvent, mais ça les fait pas changer d'avis sur lui. Donc, en définitive. C'est tout simplement ce fameux biais de confirmation qui fait qu'on préfère les informations qui nous conviennent que celles qui nous conviennent pas. Et au bout de la chaîne, c'est une question d'attitude personnelle qu'il va falloir. Il va falloir faire quelque chose à ce sujet-là. Et on en revient aux bonnes vieilles vertus intellectuelles, Aristote et compagnie, qui sont la prudence, la patience, l'humilité.
Oui, vous faisiez référence à une étude de la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch, qui avait été une étude qui avait été réalisée par par l'IFOP. Et d'ailleurs, vous dites à propos des théories du complot qu'en réalité, elles n'existent pas. C'est juste du bullshit. Mais il n'y a pas de structure idéologique derrière.
C'est ça. Il y a une théorie du complot, ni une théorie. Et souvent, ne pointe pas vraiment, véritablement un complot. Et les gens n'y croient pas à proprement parler. Peut-être qu'ils y adhèrent. Mais essentiellement, ils rejettent autre chose. C'est pas une théorie en particulier qu'ils acceptent. C'est plutôt toute autre chose qu'ils rejettent. Généralement, ce qu'ils appellent la vérité officielle ou la vérité offerte par les autorités.
Alors, il y a la question du fact-checking, mais en réalité, on se doute bien, on sent bien que ça ne suffit pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une urgence à éduquer, à sensibiliser le public afin qu'il aille justement s'abreuver à des sources informationnelles sérieuses? Et concrètement, par quoi, par où doit passer cet effort de pédagogie? Parce qu'il s'agit de ça en réalité.
Alors, on entend qu'il faut réinjecter de l'esprit critique dans l'éducation, mais c'est comme le fact-checking au journalisme. Le journalisme sait du fact-checking à l'origine. L'éducation sait l'enseignement de l'esprit critique. Toutes les chartes des universités disent que elles sont là pour augmenter l'esprit critique et créer des citoyens éclairés. Alors oui, ça c'est des pistes, qu'il faut peut-être faire une piqûre de rappel à ce sujet-là.
Le problème, c'est à l'école.
Oui, mais le problème, c'est est-ce qu'on peut enseigner l'esprit critique? Cette question, elle n'est pas vraiment réglée en psychologie. Vous avez beaucoup de gens qui se penchent là-dessus, qui tentent de développer des méthodes. Vous avez des initiatives personnelles qui se font et qui sont tout à fait louables. Mais en définitive, on ne sait pas si c'est véritablement possible d'enseigner l'esprit critique et déjà qu'est-ce que c'est exactement que l'esprit critique. Je suis plutôt, un peu partagé quoi sur ces approches-là, même si je pense qu'il faut les encourager parce que de toute façon, il y a peu de chances que ça produise quelque chose de pire en quelque sorte. Je pense que l'esprit critique, ça peut parfois se retourner contre nous, mais en définitive, c'est généralement une bonne chose.
Et on arrive, Sébastien Dieguez, à finalement ce qui est le cœur de votre proposition, parce qu'il y en a une dans votre livre, il y en a plusieurs, mais il y en a une notamment, qui est la question du ridicule. Vous écrivez « Le bullshitter est par définition ridicule, dans la mesure où son comportement ne fait que refléter l'abîme qui existe entre, d'une part, son aplomb, sa prétention, sa certitude et son sérieux affiché, et d'autre part, la vacuité totale de ses propos. » Et vous poursuivez « L'imaginaire, la fiction et la raison ont des ressources propres largement suffisantes pour remettre cet ennemi commun à sa juste place. » Pour vous, l'un des axes de lutte pour lutter contre la fabrique du bullshit, c'est de montrer combien les bullshitters sont ridicules. Le ridicule est la brèche monumentale et structurelle dans l'armure immunitaire de la post-vérité, dites-vous.
Oui, je dis que le bullshit, c'est une coquille vide, mais malheureusement une coquille très solide. Et un des moyens d'en atteindre le cœur, c'est... J'écris le ridicule, mais c'est plus généralement la satire, l'humour, mais encore plus généralement la fiction et l'imagination. Quand on parle de post-vérité, en fait, moi j'ai essayé d'apporter une approche un peu plus contre-intuitive que la tentative d'enseigner l'esprit critique, de faire du fact-checking, etc. C'est de prendre le versant post-fiction. En fait, toute vérité implique une post-fiction. Si vous n'accordez plus de respect à la vérité, du même coup, c'est la fiction, l'art et l'imaginaire qui prennent aussi un coup. Et donc en refamiliarisant, en redonnant le goût de l'imagination, de la créativité, des mondes imaginaires, je pense qu'on pourrait du même coup redonner du respect pour la réalité, pour la vérité. C'est une hypothèse, ce serait quelque chose d'intéressant aborder, je sais pas encore exactement comment.
Oui, parce que tout à l'heure on parlait de cette tolérance vis-à-vis du bullshit, vis-à-vis de la post-vérité, et on disait qu'on s'accommodait relativement facilement de tout ça, et vous avez une explication pour ça, hein, concernant cette tolérance. Vous dites que si le bullshit est devenu aussi bien toléré, c'est que nous ne le reconnaissons pas comme tel. Nous sommes devenus incapables, finalement, de distinguer la réalité de la fiction, ce qui vous fait dire que, en fait, la post-vérité, c'est aussi une post-fiction.
Exactement, oui. Il ne faut pas oublier que le bullshit, c'est simplement un processus discursif. C'est comme quand les gens parlent entre eux, on ne se pose pas mille questions. Il y a des briques de la cognition sociale et des mécanismes conversationnels qui font que tout ça nous est transparent. Quand quelqu'un parle, on lui accorde de l'attention et on pense que lui cherche à nous transmettre une information fiable qui produit des assertions basées sur ses connaissances à lui qui peuvent nous être pertinentes à nous. À partir de là, un bullshitter peut exploiter ce système-là pour faire passer ses assertions pour des choses intéressantes et fiables, alors qu'elles ne le sont pas. C'est pas qu'on soit naïf, c'est pas qu'on soit trop crédule, c'est simplement que on est naturellement charitable envers ce que l'autre cherche à nous dire. Et c'est tout le talent du bullshitter de savoir exploiter ça. C'est pour ça que le bullshit est souvent invisible et il prend l'apparence d'autre chose.
Et quelle responsabilité, pardon, pour les artistes, pour les producteurs de culture en général, justement, dans ce basculement vers cette post-fiction ?
C'est sûr qu'il y a beaucoup de bullshit dans les milieux de la culture, mais je pense pas qu'ils soient véritablement responsables de quoi que ce soit. Simplement, des fois, oui, c'est sûr qu'on mélange un peu le réel et l'imaginaire. Bon, on fait des docu-fictions, des auto-fictions, et aussi des jeux vidéo qui sont maintenant de plus en plus réalistes. Donc ce mélange de la fiction et de la réalité peut-être déboussoler. C'est une possibilité.
On parle de fiction, on parle de ridicule. Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus de 20 ans.
L'être parfait ne peut être divisé. Celui qui est par lui-même ne peut changer. Or, le temps est la mesure du changement. L'infiniment parfait ne change pas. Unité, immutabilité, éternité, c'est lui, c'est Dieu, cause insouïe, sa propre cause.
Bravo, Villecourt, c'est lumineux.
Bravo, ce n'est rien. J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu. Mais je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à Sa Majesté.
Vous avez reconnu bien sûr cet extrait de Ridicule de Patrice Lecomte dans lequel l'abbé de Villecourt, joué ici par Bernard Giraudot, démontre à la cour royale l'existence de Dieu. Ou pas,
hein, selon les besoins.
Je reviens justement sur la question des outils qui peuvent permettre de lutter contre le bullshit et la post-vérité. Est-ce que ça veut dire, parce que vous dites il faut appuyer sur cette question du ridicule, justement, est-ce que ça veut dire par exemple que des sites comme, je vais prendre Legographie par exemple, un site qui produit de la fausse information, puisque volontairement parodique, sur un ton humoristique, satirique, est-ce que finalement ce genre de site est plus efficace que des sites de fact-checking pour lutter contre le bullshit ? Ils auront plus d'effet finalement sur les personnes particulièrement sensibles au bullshit ?
Moi, j'aime bien le penser. Je pense que oui, mais c'est une question empirique qu'il faudrait pouvoir étudier mieux. Mais c'est très intéressant ces sites d'information satirique. C'est des fausses news, si on veut.
C'est d'autant plus intéressant, pardon, de vous couper, c'est qu'en réalité, on imagine que ceux qui sont friands du bullshit, friands justement de ces fake news, ils seraient aussi friands de ce genre de contre-information, d'une certaine manière.
J'en suis pas si certain. Ouais. J'aurais tendance à penser que beaucoup de gens ne saisissent pas, ne comprennent pas cette forme d'humour, précisément parce qu'ils sont trop friands de bullshit. Mais oui, cette forme de satire, mais aussi plus historiquement, Jonathan Swift, George Orwell, Anthony Trollope, tout ça sont des auteurs qui ont utilisé la satire pour dénoncer le bullshit et de longue date. Parce que contrecarrer le bullshit par des vérifications, des faits, c'est peut-être un peu barbant et c'est peut-être pas assez démonstratif. Puisque l'absurde, une bonne démonstration par la satire, peut à mon avis faire réfléchir.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire que finalement, plutôt que de faire une nouvelle loi contre les fake news, le gouvernement ferait mieux de financer des journaux satiriques, de financer du dessin de presse, soutenons les clowns du décryptage de l'information, plutôt, c'est ça ?
Alors, il faut un peu de tout, hein. Il faut les deux, mais ce serait une approche intéressante. Ce serait une approche intéressante.
C'est ce que vous prenez. C'est ce que vous prenez.
Je prône le financement des activités satiriques par le gouvernement.
Merci beaucoup Sébastien Dieguez d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage Total Bullshit au cœur de la post-vérité, qui est vraiment un ouvrage très intéressant. J'engage vraiment les auditeurs à s'y plonger, puis je les engage aussi à se rendre sur le site de franceculture.fr, puisque nous lançons, France Culture lance un nouveau programme, Les Idées Claires. Chaque semaine, c'est Nicolas Martin, producteur de La Méthode Scientifique, qui reçoit un expert autour d'une question dans laquelle la vérité est mise à mal. On peut retrouver un podcast audio, mais aussi un format vidéo court. Allez sur le site de France Culture, c'est déjà disponible.